Vous écoutez, on lit pour vous.
Avoir un animal induit-il un autre rapport au monde? Un texte de Sylvain Sarrazin, paru le 14 janvier 2024 dans La Presse. Les propriétaires d'animaux domestiques sont-ils des bêtes un peu à part quant à leurs rapports sociaux ou à l'environnement? Une équipe de recherche de l'UQAM, pilotée par la professeure de psychologie Catherine Amiot, s'est intéressé à la question. Une précédente étude l'a démontré. Oui, nous avons une attitude plus positive envers les autres animaux quand des liens ont été tissés avec un fidèle compagnon à poil ou à plumes. Mais le rapport des propriétaires d'animaux domestiques à d'autres groupes, cause ou champ, s'avère-t-il lui aussi particulier? En extirpant la moelle d'un sondage national mené en 2022, la chercheuse Catherine Amiot et son équipe ont pu dresser quelques lignes allant dans ce sens en analysant notamment leur attitude vis-à-vis des sphères sociales auxquelles ils n'appartiennent pas, par exemple par rapport aux gens issus de cultures, religions ou catégories socio-professionnelles différentes, leurs perspectives relatives à l'environnement ou encore leur consommation de viande. À l'aide d'un thermomètre affectif, outil de collecte de données permettant d'évaluer le degré de froideur ou de chaleur ressenti face à des groupes auxquels on n'appartient pas, les chercheurs ont pu remarquer des différences dans les résultats obtenus auprès de propriétaires d'animaux domestiques et de personnes qui n'en ont pas. Ce qu'on a pu voir dans la recherche, c'est que les propriétaires d'animaux domestiques montraient des attitudes un peu plus positives envers ces exogroupes comparativement aux non-propriétaires d'animaux, évoque Mme Amiot, elle-même propriétaire d'Enzo, un braque allemand. Sur la foi de ce constat, peut-on savoir si cette tendance à l'ouverture est développée par le fait même de posséder un animal chez soi ou si elle était déjà en germe chez les adoptants? Eh bien, il s'agit encore d'un champ à défricher puisque la méthodologie de cette étude quasi-expérimentale, selon les mots de la chercheuse, ne permet pas de le vérifier. Il serait intéressant de pousser pour voir d'où viennent ces différences, par exemple en observant l'évolution à travers le temps de quelqu'un qui adopterait un animal, dit Catherine Amiot. Viande à chien. Et l'assiette. Le régime alimentaire d'un propriétaire d'animal se distingue-t-il de celui d'un non-propriétaire? Si l'on regarde les catégories de diète auxquels les répondants au sondage se sont identifiés, omnivores, restrictifs, végétariens, etc., on ne remarque pas vraiment de différence entre les deux groupes, répartis globalement de la même façon parmi ces divers régimes. En fait, la différence s'observe sur une autre variable, à savoir le nombre de portions de viande moyen consommées par semaine, qui s'établit à 5,4 pour les propriétaires d'animaux domestiques contre 6,15 pour les non-propriétaires, note la professeure de psychologie. Autre volet étudié, les considérations environnementales vis-à-vis de divers enjeux sur ce plan, comme les impacts sur la biosphère, la population mondiale, les générations futures, etc. Ici, les propriétaires d'animaux font peu ou prou jeu égal avec les non-propriétaires, mais se sont montrés davantage sensibles à la question spécifique de la faune et de la flore. Les amoureux des bêtes aussi concernés. L'étude ne se penchait pas seulement sur les propriétaires d'animaux domestiques, mais également sur les personnes amenées à avoir des liens avec chats, chiens, lapins et autres. Par exemple, en faisant office de gardien temporaire. Et il appert que ces dernières montrent les mêmes inclinations sociales, même si elle ne veille pas sur un animal au quotidien. Attitude plus positive envers son propre groupe social et les autres, préoccupation marquée pour la biosphère, etc. Ces constats sont intéressants étant donné qu'ils suggèrent que ce n'est pas absolument nécessaire d'avoir un animal domestique pour montrer des différences à ces niveaux-là, pose Mme Amiot. D'autres équipes de recherche pourraient prendre le relais et continuer de creuser les données du sondage, puisqu'une catégorisation par type d'animal possédé a été tracée et pourrait être exploitée pour vérifier, par exemple, si le profil d'un propriétaire de chien serait le même que celui d'un propriétaire de chat. Ça devient complexe, prévient la chercheuse, parce qu'il y a différentes configurations, comme des gens qui peuvent avoir des chiens et des chats, des rongeurs et des oiseaux, etc. Mais clairement, ces données pourront être explorées davantage pour étudier un peu plus en détail l'effet des différentes espèces d'animaux domestiques. C'était « Avoir un animal induit-il un autre rapport au monde ?» un texte de Sylvain Sarrazin, paru le 14 janvier 2024 dans La Presse.
Comment j'ai économisé 800 $ US en mangeant plus de plantes? Un texte d'Alana Benshin de l'Associated Press, paru le 7 janvier 2024 dans La Presse. J'ai essayé de devenir végétarienne une fois quand j'étais au secondaire. Ma meilleure amie était végétarienne et j'étais curieuse. Je n'ai tenu que 4 jours. Ma chute, un sandwich au poulet buffalo. Depuis cette tentative malheureuse, je n'ai jamais essayé de réduire ma consommation de viande. C'est tout simplement trop savoureux. Mais en 2022, un membre de la famille s'est vu diagnostiquer une maladie potentiellement mortelle. En plus de prendre de nouveaux médicaments, il a adopté un régime strict à base d'aliments complets et de plantes dans l'espoir d'améliorer son état de santé. Si le régime alimentaire pouvait potentiellement aider en cas de maladie grave, je me suis dit qu'il pouvait peut-être m'aider à soigner mes problèmes de santé bien moins graves. Pourquoi ne pas essayer? Et ça a marché. En plus de me sentir mieux, passer d'une alimentation riche en viande, manger de la viande presque 2 fois par jour, à une alimentation riche en végétaux, manger de la viande 1 à 3 fois par semaine, m'a permis d'économiser plus de 800 $ US, environ 1 070 $ canadiens, en l'espace de 5 mois. Un régime économique. Au début, je n'étais pas très enthousiaste à l'idée de manger de la salade plutôt que du steak, mais j'ai adoré les économies que je faisais, et il s'avère que mon cas n'est pas unique. Une étude réalisée en 2021 par l'Université d'Oxford a révélé que les régimes végétaliens permettaient de réduire les coûts alimentaires 1/3. Quand on y pense, c'est logique. Le coût moyen d'une livre de bœuf haché était de $5.23 US, $6.99 canadiens, en octobre 2023. Si vous remplacez cette viande par des pois chiches, vous pouvez vous attendre à payer environ $1 pour une boîte de 433 grammes. Toni Okamoto, fondatrice du blog Plant-Based on a Budget à Sacramento, en Californie, affirme que nombre de ses clients dépensent $40 US à $50 US, $53.50 canadiens à $66.85 canadiens par semaine et par personne en produits d'épicerie lorsqu'ils suivent ses plans de repas à base de plantes. Je vivais d'une paix à l'autre, avec un emploi qui m'amenait à vivre en dessous du seuil de pauvreté. En planifiant mes repas et en réfléchissant à mon alimentation à base de plantes, j'ai pu sortir de l'endettement et commencer à économiser de l'argent, selon Toni Okamoto. Il a également été démontré que le fait de manger plus de végétaux pouvait améliorer la santé à long terme. La réduction des risques pour la santé pourrait se traduire par une diminution des visites chez le médecin, des ordonnances et des autres dépenses de santé à long terme. Cathy Cummings, planificatrice financière certifiée végétalienne chez Vision Capital Management à Portland, en Oregon, note que s'alimenter de manière à prévenir les maladies peut contribuer à réduire les coûts. Une chose qui fait vraiment dérailler un plan financier, c'est un épisode de soins de longue durée, déclare Madame Cummings. Comment manger plus de plantes? Lorsque j'ai commencé à manger plus de plantes, j'ai essayé de me concentrer sur l'addition plutôt que sur la soustraction. Pour moi, cela consistait à manger un nouveau légume par semaine. C'est ainsi que j'ai découvert que j'aimais le romanesco et que je n'étais pas fan du chou rave. Au lieu de me concentrer sur la suppression de la viande, j'ai réfléchi au nombre de légumes que je pouvais ajouter à mon alimentation. Finalement, mes goûts ont changé et j'ai même commencé à avoir envie de légumes. Si vous souhaitez manger plus de végétaux, il existe de nombreuses façons de procéder, mais Madame Okamoto suggère de rester simple. Essayez de ne pas vous laisser submerger par l'idée de changer complètement de mode de vie, mais pensez simplement aux choses que vous mangez et à la façon dont vous pouvez les remplacer, dit-elle. Par exemple, si vous aimez les pâtes, vous pouvez toujours manger des pâtes avec de la sauce marinara et une boîte de haricots blancs cannellini avec quelques légumes surgelés. Ou si vous aimez les tacos au bœuf, essayez d'utiliser des lentilles à la place. Elles sont plus saines pour le cœur et beaucoup moins chères. Faites fructifier votre épargne. Si vous cherchez « gagner de l'argent rapidement » dans un moteur de recherche, vous trouverez de nombreuses suggestions telles que conduire des véhicules de livraison ou donner des cours en ligne. Mais peu d'entre elles peuvent réellement vous permettre de mettre de l'argent dans vos poches dès aujourd'hui. Si vous cherchez à gagner de l'argent, réduire votre facture d'épicerie peut vous aider à économiser de l'argent instantanément. Selon Madame Cummings, les personnes qui souhaitent adopter un régime végétalien ou à base de plantes peuvent tirer profit du suivi de leurs dépenses. Soyez très clair et honnête avec vous-même lorsque vous examinez votre budget. Soyez gentil avec vous-même lorsque vous commencez à fixer des limites assez élevées pour vos catégories, explique Madame Cummings. Ensuite, vous pouvez les réduire progressivement et les modifier en vérifiant souvent. Je dis toujours à mes clients de consacrer 15 minutes par semaine, si possible. Si vous économisez beaucoup d'argent, vérifier votre budget peut même devenir un passe-temps. Si vous réduisez votre facture d'épicerie du tiers, vous pouvez soudainement disposer d'un peu plus d'argent. Vous pourriez ainsi alimenter votre fonds d'urgence, épargner pour votre retraite ou vous offrir des vacances. Quel que soit l'usage que vous ferez de cet argent, les économies réalisées et les avantages pour la santé pourraient bien vous inciter à renoncer à la viande. Cette chronique a été fournie à l'Associated Press par le site web de finances personnelles NerdWallet. Le contenu est destiné à des fins éducatives et informatives et ne constitue pas un conseil en matière d'investissement. Alana Benson est rédactrice chez NerdWallet. C'était Comment j'ai économisé 800 dollars US en mangeant plus de plantes, un texte d'Alana Benson de l'Associated Press, paru le 7 janvier 2024 dans la presse.
Où boire, manger et dormir dans les Laurentides, un texte de Marie-Julie Gagnon, paru le 24 août 2023 dans le magazine Nouveau Projet 24. Boire. Bière, vin ou les deux? Une escale dans un vignoble ou une microbrasserie s'insère facilement dans un itinéraire, le temps d'une dégustation ou d'un simple arrêt à la boutique. À Saint-Eustache, le vignoble Rivière-du-Chêne fait partie des grands favoris. La vue sur les vignes donne l'impression d'être propulsé sur un autre continent. En été, il est possible d'y casser la croûte et, en automne, de participer aux vendanges. À la fois un vignoble et une microbrasserie, le vignoble Les Vendanges, à Saint-Joseph-du-Lac, concocte des produits variés. L'entreprise familiale accueille la visite en septembre et en octobre. À Mirabel, la distillerie artisanale Côte des Saints propose des dégustations sur réservation les samedis et dimanches. L'orge utilisée est cultivée sur place. Si vous cherchez un endroit où vous posez plus longtemps, la microbrasserie Sawbridge, à Prévost, permet de boire une bière dans un décor inspiré de la vieille gare voisine. À Saint-Jérôme, la brasserie Dieu du Ciel offre une expérience similaire à celle des Biergarten. Aménagée à la manière d'un jardin, la terrasse peut accueillir jusqu'à 200 personnes. Un burger avec ça? Vignoble Rivière-du-Chêne, 807 chemin de la Rivière-Nord, Saint-Eustache. Vignoble Les Vents d'Ange, 839 chemin principal, Saint-Joseph-du-Lac. Côte des Saints, 12465 Côte des Saints, Mirabel. Micro-brasserie Sawbridge, 3023 Boulevard du Curé-Labelle, Prévost. Brasserie Dieu du Ciel, 248 rue Godmer, Saint-Jérôme. Manger. Saveur d'ailleurs. Cycliste, fondeur, fondeuse, touriste et résident, résidente du coin se croisent été comme hiver dans l'atmosphère conviviale du restaurant Le Mapache, à deux pas du couvent Valmorin et du parc linéaire Le Petit Train du Nord. Cette taqueria propose une cuisine de marché, des bières de microbrasserie et des vins nature. Le restaurant se trouve dans la réplique d'une ancienne gare et dispose d'une terrasse pour la saison chaude. Le Mapache, 1770, chemin de la gare, Valmorin. Tomber dans les pommes. À Saint-Joseph-du-Lac, le domaine La France a vu se succéder trois générations de pommiculteurs, pommicultrices. Auto-cueillette l'automne, visite de la cidrerie, de la distillerie et du musée toute l'année. Surtout, on ne quitte pas l'endroit sans avoir goûté au calvados et au gin. Tout près de là, la cidrerie La Croix inaugure à l'été 2023 une nouvelle terrasse ouverte de l'heure du brunch à l'heure de l'apéro. On en profite pour déguster des cidres ou manger un repas du terroir en admirant la vue sur le verger. Si vous vous rendez chez La Bonté de la Pomme à Oka, pour apporter de quoi faire des tartes avant l'arrivée de l'hiver, sachez que le site offre des activités toute l'année. À la cabane à pommes, où des repas adaptés selon les saisons sont servis au cœur du domaine, les brunchs gourmands sont à l'honneur. L'été, il faut absolument vivre l'expérience d'un pique-nique dans les vergers. Domaine La France, 1473, chemin principal, Saint-Joseph-du-Lac. Cidrerie La Croix, 649 chemin principal Saint-Joseph-du-Lac. La bonté de la pomme et la cabane à pommes, 405 rang de l'Annonciation au cas. Dormir. La Sainte Paix. Converti en auberge, le couvent Valmorin est le cocon parfait pour se retirer du monde, tout en restant connecté grâce au Wi-Fi. À deux pas de la piste multifonctionnelle du Petit Train du Nord et du lac Raymond, ce havre de paix est idéal pour un séjour en solo. De petites chambres privées avec salle de bain partagée peuvent être louées à prix modique. Et on y croise autant des télétravailleurs, télétravailleuses, que des mères qui ont besoin de répit ou des adeptes du plein air. Une cuisine permet de préparer ses repas et les pièces communes de croiser d'autres visiteurs, visiteuses. Différentes retraites axées sur le yoga et le bien-être sont aussi organisées ponctuellement. Comme une auberge de jeunesse, mais sans le bruit et les parties. À Saint-Adolphe d'Howard, une maison canadienne érigée en 1839 invite aussi au décrochage dans un environnement feutré. À la fois un gîte de 8 chambres, un café et une boutique, les conifères comptent 3 bâtiments et une cour intérieure. Le couvent Valmorin, 2043 chemin de la gare Valmorin, les conifères, 2483 chemin du village, Saint-Adolphe d'Howard. Camping et glamping. Bel Air Tremblant, un village composé de chalets, de dômes et d'autres hébergements atypiques qui offrent luxe et confort, sauna privée et Netflix inclus. On trouve l'excellent restaurant japonais Eki Sushi sur le site. 80 rue des Sept Sommets, Mont-Tremblant. Parc régional du Poisson Blanc, pour dormir sous la tente sur une île déserte ou dans l'un des refuges minimalistes concoctés par Atelier L'Abri, à noter que certains ont un accès à l'Internet sans fil. 37 chemin de la Truite, Notre-Dame-du-Laos. Les toits du monde. Tipi, cabane perchée dans les arbres, yourte ou maison de hobbit. 1795, chemin des Faucons, Nominingue. C'était « Où boire, manger et dormir dans les Laurentides », un texte de Marie-Julie Gagnon, paru le 24 août 2023, dans le magazine Nouveau Projet 24.
Les boissons végétales sous la loupe. Un texte d'Isabelle Huot, paru en mai 2023 dans le magazine Bel Âge. Les personnes qui souffrent d'intolérance au lactose ou qui réagissent à la caséine, une protéine présente dans le lait, voient dans ces boissons qui en imitent la texture la solution à leur inconfort. Parmi toutes celles offertes sur le marché, lesquelles sont les plus nutritives? Boissons de soya. Point fort. Elles sont riches en protéines, 7 ou 8 grammes, et faible en gras saturé, de 0,5 à 1 g. Elles contiennent des phytoestrogènes, isoflavones de soya, soit des composantes végétales qui ont une similarité avec l'estrogène, une hormone principalement sécrétée par les ovaires. Les études indiquent que la consommation de phytoestrogènes pallie en partie à la chute hormonale qui survient à la ménopause. Ils sont aussi associés à une diminution du risque de cancer du sein. Leur teneur en calcium et en vitamine D est élevée dans les versions enrichies. Elles sont nutritives et polyvalentes. Les boissons de soya produisent une mousse stable appréciée dans le café. Point faible. La teneur en sucre est élevée dans les versions sucrées. leur goût ne fait pas l'unanimité. Boisson d'amande. Point fort. Les boissons végétales aux amandes enrichies sont faibles en gras saturé, 0,2 à 0,5 g, et riches en calcium et en vitamine D. Point faible. Elles sont faibles en protéines, de 1 à 2 g, ce qui limite leur capacité à produire une belle mousse. La production de boissons d'amandes requiert plus d'eau que celle d'autres boissons végétales, soya, avoine, riz. En Californie, d'où proviennent 80 % des amandes consommées dans le monde, la sécheresse causée par les changements climatiques compromet cette culture très gourmande en eau. La teneur en sucre est élevée dans les versions sucrées, certaines contiennent jusqu'à 20 g. Boisson à l'avoine. Point fort. Leur teneur en gras saturé est faible, de 0,3 à 0,5 g. Elle s'intègre bien à plusieurs préparations comme des céréales, des smoothies ou des desserts. Leur goût s'accorde très bien à celui du café. Les versions plus riches en protéines et qui contiennent des gommes produisent une mousse stable. Point faible. Les boissons à l'avoine apportent généralement peu de protéines, 1 g. Celle de la marque Earthshorn, par contre, en contient 4 g. La teneur en sucre est élevée dans les versions sucrées. Les produits sans additifs peuvent voir leur émulsion se briser dans un café chaud. Et les autres? Les boissons de riz affichent une teneur en glucides plus élevée, jusqu'à 26 g, et peu de protéines, ce qui en fait un moins bon choix. Leur pouvoir moussant est aussi limité. Celle à base de noix de coco apporte davantage de gras saturé, de 3,5 g à 5 g, ce qui est peu avantageux pour le contrôle du cholestérol sanguin. Quant à la boisson de cajou, son profil en protéines et en gras saturé rappelle la boisson d'amande. Parmi les nouveautés, Nut Milk est une boisson à base de protéines de pois dont le goût se rapproche vraiment de celui du lait. Elle fournit 4 g de protéines, ce qui représente un beau compromis. Conseil de pro. Peu importe la boisson choisie, c'est préférable d'opter pour des versions non aromatisées et non sucrées, des boissons enrichies en calcium et en vitamine D. C'était « Les boissons végétales sous la loupe », un texte d'Isabelle Huot paru en mai 2023 dans le magazine « Bel âge ».